Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'antre du Ridicule Morbide. Bienvenue chez Murder Wine and Cheese. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez des températures qui se réchauffent. Personnellement, j'en profite pas vraiment, je suis un peu malade, je sais pas si ça s'entend ou pas. Mais bon, je pouvais pas vous laisser 2 semaines de suite sans épisode, hein, et je pense que j'ai pris assez de pause comme ça. Donc, je vais vous offrir quand même une petite histoire aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de détermination, de mensonge et de cruauté comme j'en ai rarement vu. Sans plus attendre, voici l'affaire Muriel Fleury. Notre histoire débute le 23 septembre 2011 à Glénac dans le Morbihan. Lionel Fleury, un cadre commercial pour une chaîne de restauration, est posé chez lui, sûrement après une dure journée de travail. C'est là qu'il reçoit un appel de sa femme, Muriel. Elle est arrêtée dans le lieu-dit du Brand-Ferré, son pneu est crevé. Personnellement, je lui aurais dit d'appeler un dépanneur et d'arrêter de me faire chier, mais je ne suis pas le mari dévoué qu'est Lionel. Celui-ci décide de la rejoindre pour l'aider, il prend sa voiture, conduit jusqu'au Brand-Ferré et s'agenouille devant la roue pour la changer. Et là, l'impensable se produit. Un homme débarque de nulle part et attaque Lionel. Il le frappe à coups de barre de fer avant de sortir un couteau et de le poignarder 7 fois à la carotide, à l'œil, au poumon et à la gorge. Malgré ses blessures, Lionel arrive héroïquement à faire fuir l'attaquant et Muriel appelle les secours. Lionel est emmené à l'hôpital de Redon vers 23h30, mais ses blessures sont telles que son pronostic vital est engagé et il est transféré dans une unité de soins intensifs à l'hôpital Pontchaillou de Rennes. Miraculeusement, il arrive à être soigné et survit à son attaque. Dès le lendemain de l'agression, Muriel et sa fille Alizée, issues d'une première union, sont interrogées par les gendarmes. Muriel explique qu'elle était au Brand-Ferré pour repérer la route qu'elle devrait prendre pour accompagner Alizée en boîte de nuit quand elle a crevé. Elle n'a pas reconnu l'homme qui a agressé Lionel. Quand les gendarmes lui demandent si Lionel a des ennemis, elle répond qu'elle n'en connaît aucun. Et Alizée confirme tous ses dires. Cependant, quand les gendarmes commencent leur enquête, ils se rendent compte que quelqu'un voulait forcément du mal à Lionel. En effet, le père de famille avait déjà déposé plainte 3 fois pour dégradation de sa voiture. Il faudrait plutôt dire sabotage, puisque ce sont les pneus, la boulonnerie et le système ABS qui ont été touchés. Je m'y connais pas en voiture, j'ai même pas le permis, mais j'ai entendu dire que c'était des parties importantes dans une voiture, donc si c'est vrai, c'est très grave. Lionel sort de l'hôpital au bout de 3 semaines. Face aux enquêteurs, il explique qu'il n'a pas vraiment d'ennemis. À part peut-être le mari d'une ancienne maîtresse. Ce mari avait exigé la fin de la relation extra-conjugale, ce que Lionel avait accepté, mais ce ne serait quand même pas étonnant qu'il ait tout de même gardé un tout petit peu de rancœur. Le mari bafoué est interrogé, mais il a un alibi prouvé par ses relevés téléphoniques, alors il est disculpé. Mais pourquoi Lionel, cet époux bien sous tout rapport, avait-il entamé cette relation illicite? Il se justifie en disant que Muriel est atteinte à ce moment-là de leucémie, et que le couple ne pouvait donc plus avoir de relations sexuelles. Ce n'est pas vraiment une justification valide, puisque monsieur est équipé d'une main droite parfaitement fonctionnelle, mais bon, on ne va pas tergiverser là-dessus. Là, vous devez sûrement vous dire, oh là là, pauvre Muriel, non seulement elle s'est fait tromper, mais elle a aussi failli perdre son mari définitivement à cause de cette agression. Eh bien, tout le monde n'est pas de cet avis, particulièrement le père de Lionel. Il contacte les gendarmes et leur fait part de ses soupçons. Pour lui, il y a anguille sous roche concernant Muriel. Elle est bizarre. Néanmoins, il n'apporte rien de factuel, alors il est gentiment écouté par les enquêteurs, sans plus. Pourtant, le temps lui donnera raison. Peu après sa sortie de l'hôpital, Lionel reprend le travail, même si les séquelles de son agression se font toujours sentir. D'ailleurs, son état ne s'améliore pas du tout. Il empire même. Il est rapidement obligé d'arrêter à nouveau le travail à cause d'une fatigue intense et chronique. Il commence aussi à avoir des problèmes de coordination. Il n'arrive plus à manger avec des couverts, et parfois il n'arrive même pas à atteindre les toilettes à temps. Il tente tout de même de mener une vie normale, et un jour, alors qu'il est en train de conduire, il s'endort au volant et heurte une glissière de sécurité sur l'autoroute. Il sort indemne de cet accident, ce qui me fait remettre en question mon scepticisme sur l'existence des anges gardiens. Les enfants de Lionel, y compris Alizée, dont il est très proche, finissent par lui dire d'aller à l'hôpital où on lui fait une prise de sang. C'est alors qu'on lui découvre un taux de benzodiazépine 16 fois supérieur à la normale. Pour information, les benzodiazépines sont souvent présents dans les médicaments qu'on donne aux personnes dépressives et une dose normale te casse la gueule. Donc imaginez 16 fois une dose normale. Lionel reste à l'hôpital le temps d'évacuer une telle dose, mais il est autorisé à rentrer chez lui pour le réveillon du nouvel an. Et quand il revient le 1er janvier 2012, son taux de benzodiazépine a doublé. C'est là qu'il a la révélation. Sa famille a raison. C'est Muriel qui est derrière tout ça. Il la quitte immédiatement et part s'installer chez son père. Les gendarmes aussi commencent à se méfier de Muriel. Ils la mettent sur écoute et découvrent que sa leucémie est un mensonge qu'elle a inventé pour ne plus avoir de relations sexuelles avec son mari. Mais ils découvrent également qu'elle est enceinte. De qui, du coup ? De Patrice Pluot, son amant, bien sûr. Les gendarmes tracent le téléphone de Patrice et découvrent qu'il était au Branferré le soir de l'agression de Lionel. Le 16 mars 2012, Muriel et Patrice sont interrogés. Patrice nie être l'amant de Muriel et explique que le soir de l'agression, il était dans un bistrot avec Alizée et le petit ami de celle-ci, Jean-Sébastien. Il ne se serait rendu sur les lieux de l'agression qu'après les faits, comme Muriel l'a appelé. Ce mensonge aurait pu leur faire gagner du temps. Mais c'était sans compter sur le père de Lionel, qui revient vers les gendarmes avec des photos extraites du Facebook de Muriel. Cette dernière a organisé des soirées avec Patrice, Alizée et Jean-Sébastien pendant que Lionel était à l'hôpital. Muriel a même fait venir Patrice à la maison pour le réveillon et l'a présenté à Lionel comme un ami. Le culot. Peu après ces découvertes, c'est Alizée qui vient voir les gendarmes pour avouer avoir menti à la demande de sa mère. Muriel n'était pas au Branferré pour repérer la route vers la boîte de nuit, elle la connaissait déjà. Alizée explique également que le soir de l'agression, Jean-Sébastien et Patrice l'ont laissé seul pendant un moment sans trop d'explications et que depuis, Jean-Sébastien est nerveux et violent. Enfin, elle dit avoir entendu Patrice dire à sa mère de mettre quelque chose dans le thé de Lionel, je cite, « pour être tranquille ». Ces révélations ne sont pas les seuls éléments qui sont portés à l'attention des enquêteurs. Ceux-ci découvrent également que Muriel est très dépensière et que pendant que Lionel était à l'hôpital, elle a souscrit un prêt à deux à la banque en imitant sa signature. Ils déduisent qu'elle comptait sûrement sur l'assurance décès de Lionel, qui valait au moins 500 000 euros, pour rembourser ce prêt. Finalement, les enquêteurs tracent le portable de Jean-Sébastien et découvrent qu'il était aussi sur les lieux de l'agression. Ça en fait du monde pour un pneu crevé. Muriel, Patrice et Jean-Sébastien sont arrêtés par les gendarmes et interrogés. Jean-Sébastien est le premier à craquer. Il avoue avoir accepté de tuer Lionel contre 50 000 euros que lui a promis Muriel. C'est clair que comparé à son salaire d'agent de sécurité, ça fait une sacrée somme. Le soir de l'agression, il a rejoint Muriel à 22h15, déposé par Patrice, qui lui a aussi fourni le couteau. Il a crevé un pneu avant de se cacher dans un fourré pour attendre que Lionel arrive. Après l'agression, il a été récupéré par Patrice et les deux ont rejoint Alizée au bistrot, comme si de rien n'était. Patrice confirme cette version des événements. Muriel, de son côté, avoue les sabotages de la voiture de Lionel, la planification de l'agression et l'empoisonnement de son mari. Elle essaie de se justifier en disant qu'au bout de 17 ans de mariage, elle ne supportait plus la violence de son mari, mais cette violence ne sera jamais prouvée. Le trio est inculpé et Muriel accouche en prison d'un petit garçon. Le procès commence le 13 mai 2014 aux Assises de Vannes. Dès le premier jour, Muriel crée la surprise en annonçant qu'elle n'est plus en couple avec Patrice, ce que ce dernier apprend en même temps que l'audience. Elle essaie aussi de tout lui mettre sur le dos en disant qu'il l'a manipulée, qu'elle était fragile, tout ça, tout ça. Malgré ses efforts, les faits montrent son véritable caractère. On apprend même qu'elle était dans le viseur des services sociaux pour défaillance dans ses devoirs de mère. Une épouse et une mère modèle, celle-là. Vraiment. Muriel Flory, née Couret, est condamnée à 20 ans de prison. Patrice Pluot est condamné à 10 ans et Jean-Sébastien Thomas est condamné à 12 ans. Le trio a le culot de faire appel, mais leur peine est confirmée en 2017. Si mes calculs sont bons, Patrice Pluot devrait sortir de prison l'année prochaine et Jean-Sébastien devrait finir sa peine en 2026. Muriel, elle, devrait finir sa peine en 2034. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette affaire sur Twitter, @mwacpod, ou sur le site web murderwinecheese.com. Si vous le pouvez, faites un petit don pour que je puisse améliorer mon contenu, notamment en achetant un meilleur micro et quelques bouquins. Allez regarder des vidéos de chatons pour vous détendre, et moi je vous retrouverai au prochain épisode. Salut !